Bien, bonsoir. Donc, pour terminer ce cycle sur le travail, c'est Robert Coutura ce soir qui va pouvoir discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Alors, Robert est ergonome consultant, très spécialisé dans les RPS, dans les risques psychosociaux particulièrement. Il intervient dans les masters de l'IETL, c'est-à-dire l'Institut du Travail à Lyon 2, ainsi qu'au master de Lille 2. Et il a une activité qui date d'une vingtaine d'années dans ce domaine-là, et particulièrement auprès des entreprises, mais surtout des CHSCT. Alors, pour explication des CHSCT, ce sont les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. C'est donc une instance représentative du personnel au sein des entreprises et des administrations. Voilà, donc ils ont un périmètre de droit qui permet de faire appel à des expertises, à des experts, lorsque les conditions de travail sont à revoir et à améliorer. Voilà, donc je laisse la parole à Robert.
Merci Nadine. Oui, bonsoir à tous et je tenais à vous remercier d'abord parce que c'est un honneur que d'être là. Et puis, je voulais saluer aussi le courage parce que finalement, travailler toute la journée et venir en plus encore continuer à parler du boulot le soir, bah, je trouve que c'est un effort méritoire. Alors, on va parler effectivement d'ergonomie. Hein. Nadine précisait que mon métier, c'est l'ergonomie. Donc, je vais prendre soin d'essayer effectivement de poser à partir de quoi finalement l'ergonomie fonde son propos, et puis à partir de quoi elle s'engage à transformer les organisations du travail, hein, parce que la visée de l'ergonomie, c'est une visée de transformation. Hein. C'est la finalité effectivement du travail des ergonomes, c'est concrètement effectivement se donner les moyens d'agir. Alors je vais vous faire un exposé, que j'ai construit un peu structuré, même si moi j'ai plutôt une appétence pour les digressions, le débordement, parce que ça c'est lié à mon histoire, mon histoire de formateur, c'est-à-dire je fais beaucoup de formation, voilà, et donc la formation c'est un exercice de partage, d'échange, d'itération, hein, bon. Mais nous sommes quand même dans un cadre, j'allais dire, de leçons. Hein. Par ailleurs, leçons qui sont enregistrées. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de bien me tenir. Voilà. Alors, je vais être obligé un petit peu de me référer à mon texte et à me référer en m'asseyant parce que j'ai quelques problèmes d'acuité visuelle en ce moment. Et c'est important que je puisse effectivement jeter un coup d'œil sur le texte. Alors, peut-être pour commencer, c'est d'essayer de définir ce qu'est le travail pour l'ergonome. Donc le travail pour l'ergonome, finalement, il va être considéré comme une énigme, le travail. Une énigme pour celui qui l'observe, comme pour celui qui le réalise, qui l'exécute. C'est-à-dire, pour celui qui l'observe, bien évidemment, parce qu'on ne voit pas les processus de raisonnement, de prise de décision, tout ce sur quoi l'action se construit. Tout ce sur quoi l'efficacité se construit, ça ne se voit pas a priori. Regarder quelqu'un travailler, ça ne suffit pas, bien évidemment, pour mesurer, pour tenir compte de l'épaisseur de ce qu'est le travail. Alors, c'est aussi une énigme pour celui qui le fait, hein, je développerai ça un peu plus loin, parce que fondamentalement, l'expérience du travail relève d'une expérience du corps. Le corps est premier, le corps est en avance sur la conscience. C'est-à-dire que je fais, mais si finalement je ne conscientise pas, je ne traite pas au plan cognitif, eh ben j'en fais pas une connaissance, j'en fais pas un savoir, j'en fais pas quelque chose finalement qui peut exister, nous le verrons, par des mots. La question des mots, MOTS, c'est une question importante. Pour réaliser ça, hein, si tant est qu'il y en ait qui en doutent, si je prenais n'importe quel d'entre vous et je lui posais la question de savoir et de lui demander qu'est-ce qu'il fait. Alors évidemment, vous me répondriez du point de vue de la définition de votre poste, hein, ou de votre tâche. Mais ce que vous faites n'est pas relatif à la définition de votre poste. Et d'ailleurs, parfois, la dénomination, finalement, liée à votre poste de travail est très très loin de ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que de faire ce que vous faites? C'est extrêmement difficile. Hein, nous verrons que c'est pas forcément un problème, mais une des questions que pose le travail, finalement, c'est justement comment on accède à cette mise en mots, hein, mise en mots essentielle pour pouvoir prétendre, transformer, faire évoluer les conditions de travail et plus globalement les organisations du travail. Alors, supposer que le travail est énigmatique, c'est évidemment supposer et ne pas considérer le travail comme relevant de la stricte exécution. Hein, le travail d'exécution n'existe pas. Hein, il n'y a que les robots qui exécutent, ou les ordinateurs. Ça exécute. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui fait que. Mais un robot, il s'arrête tout de suite dès qu'il y a une variable, qui est une variable, effectivement, qui n'est pas implémentée, c'est-à-dire qui n'est pas prévue dans le programme. Hein. L'homme, lui, non. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin des hommes, toujours, tant que finalement, d'une certaine manière, on n'a pas réduit le champ d'incertitude qui est lié au travail. Et on va voir que le travail relève, hein, pour partie de la gestion de l'incertitude. Donc il n'y a pas de travail de stricte exécution de consigné de procédure. Hein, je pense que c'est quelque chose, par ailleurs, vous avez entendu avec les autres intervenants, c'est-à-dire que le travail, ben, c'est un investissement corporel, cognitif, affectif, émotionnel et social. C'est-à-dire que si je veux avoir une idée de ce que c'est que l'engagement de quelqu'un dans le travail, si je veux a fortiori, d'une certaine manière, produire un diagnostic de situation, eh bien, c'est dans l'ensemble de ces champs-là qu'il faut que j'aille voir. C'est-à-dire, quelle est la part du travail, finalement, qui a un impact au plan corporel? Quelle est la part du travail qui interpelle au plan cognitif? Quelle est la part de l'engagement affectif et émotionnel dans le travail? Et puis, quelle est la relation, effectivement, et la part qui revient au social, c'est-à-dire à la relation avec les autres, hein, notamment. Donc, travailler pour l'ergonome, c'est également se confronter à la résistance des choses. Et de la matière, de l'objet. C'est-à-dire que ça renvoie aux notions d'aléas, de dysfonctionnement. Hein. C'est-à-dire qu'il est assez rare qu'une journée se passe comme une autre. Dans vos expériences du travail, il y a des fois, à peine arrivé au boulot, on se dit « ça va être la galère aujourd'hui ». Vous voyez, c'est-à-dire... Et ça, c'est votre corps qui vous le dit. Hein. C'est-à-dire qu'il a prélevé plein de trucs, quoi. Hein, oui. Hein, bon. C'est-à-dire que c'est assez rare justement que finalement, voilà, hein, on n'aurait qu'à exécuter, à faire quelque chose et à chaque fois ça marcherait. Pas du tout. Hein. Donc dans cette perspective, le travail peut s'appréhender comme une mise en échec de nos savoirs et de nos connaissances théoriques. C'est-à-dire que fondamentalement, l'expérience qu'on en a du travail, c'est une expérience de l'échec. Échec de nos savoirs théoriques, c'est-à-dire quand on a commencé à travailler, on s'est aperçu que ce qu'on savait ne suffisait pas. Ça suffit pas pour être compétent. Hein, c'est-à-dire que l'efficacité, la compétence, relève d'une autre rationalité, qui est une rationalité qui va avoir avec, effectivement, le fait de l'exercer, le travail. Hein, tant que j'ai pas exercé, finalement, je ne sais pas ce que c'est que le travail. Et puis, évidemment, il y a aussi, hein, pas uniquement la résistance des choses, hein, c'est-à-dire qu'on appréhende le réel, on appréhende le travail par la résistance qui nous oppose. La résistance, c'est pas que la matière, hein, mais c'est aussi les autres, c'est-à-dire que l'expérience du travail, eh ben, finalement, c'est une expérience un peu nouvelle de ce point de vue-là, parce que le travail, c'est quand même le seul lieu où on passe autant de temps avec des gens qu'on n'a pas choisis. Vous voyez ? La question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, comment se fait-il que nous ne soyons pas plus en conflit ? Parce que quand vous voyez la diversité de ce que représente un groupe social au travail, vous avez potentiellement pour que nous soyons en conflit. Donc retenez ça, c'est-à-dire que le travail, il a une capacité finalement à construire du social et à faire du lien, indépendamment justement de tout ce qui pourrait nous opposer, du côté de notre personnalité, du côté de là où on vient. Enfin, hein. Donc, on y reviendra sur cette question-là, mais on parle beaucoup de conflits relationnels, mais finalement la question c'est pourquoi nous n'en avons pas plus, hein, je développerai un peu plus loin. Donc pour l'ergonome, travailler c'est éprouver, et c'est parce que l'on éprouve que notre intelligence est mobilisée. C'est le paradoxe du travail, c'est-à-dire que si vous faisiez un travail qui vous ferait faire l'économie de l'épreuve, de la résistance des choses, finalement c'est un travail qui sera ennuyeux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on développe des compétences et de l'intelligence, finalement, parce qu'on se confronte à des choses qu'on ne sait pas faire. C'est ce qu'il y a intéressant dans le réel. Donc, d'où un paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps que le travail réel, ce que vous avez entendu sur le travail réel, finalement, c'est extrêmement déstabilisant, parce que le réel nous convoque, nous sollicite, et on n'a pas la réponse a priori. C'est-à-dire qu'on n'a pas le savoir de référence, la procédure, la bonne méthode pour répondre tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut donner de soi, il faut inventer, il faut un peu créer. Alors c'est une déstabilisation, mais en même temps on va voir que c'est une ressource de développement et de santé qui est extrêmement importante effectivement pour nous tous. Je vous rappelle que l'ennui c'est pas bon pour la santé, hein. C'est-à-dire que le pire finalement qui pourrait nous arriver c'est de nous ennuyer. C'est-à-dire que certes on a des problèmes de conditions de travail, mais je pense que les gens qui ne travaillent pas, leur santé elle n'est pas meilleure, elle est même souvent plus dégradée que ceux qui travaillent. Hein. Donc on voit bien que le travail occupe une fonction particulière, qui est une fonction de santé, à la limite dont on pourrait dire que ces générateurs de santé, quelles que soient les conditions dans lesquelles on travaille, sous réserve d'un certain nombre de conditions. Hein. Mais ce que je veux poser là, c'est que l'effort, faire des efforts et faire beaucoup d'efforts, c'est pas mauvais pour la santé. C'est pas l'effort en lui-même. Alors après, c'est une question de seuil, question de limite, c'est une question, on peut discuter de tout ça. Mais le pire, c'est pas faire d'efforts. Donc, travailler, être efficace, cela suppose également, alors, comme vous en avez également entendu parler, c'est d'avoir à désobéir aux normes et aux procédures, hein, qui sont autant de volonté de l'organisation du travail, finalement, d'imposer sa maîtrise. Donc, travailler, c'est lutter contre la résistance de la matière, des choses, de l'environnement, hein, travail réel, mais c'est également lutter contre un système de normes et de procédures qui empêchent, finalement, l'opérateur, celui qui travaille, de déployer son intelligence, son ingéniosité, pour réaliser ce qu'il a à faire. Hein. C'est-à-dire que, en même temps que j'ai besoin d'être intelligent pour faire ce que je fais, j'ai besoin de mobiliser des ressources qui me sont propres. En même temps, certaines organisations du travail empêchent cela. Hein. Alors, confère à ce qu'on vient de dire là, hein, il va de soi que l'homme ne peut pas être un simple exécutant. Hein. Je disais que le travail d'exécution, ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire, tant qu'il y a des hommes qui travaillent, c'est qu'on a besoin qu'ils apportent quelque chose qui va au-delà du simple fait qu'ils soient des exécutants, même si bien évidemment se pose la question de la reconnaissance de ça. Hein. Ça, c'est une autre histoire, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Car finalement, être un exécutant, ce serait prendre le risque d'être en conflit avec ce que l'on est. Il n'y a pas d'être humain qui naisse en disant, ou d'enfants, je ne sais pas ce qu'ont des enfants ici, c'est rare qu'on ait entendu nos enfants nous dire, papa, plus tard je veux être nul, et je veux faire nul, je veux être un pion. Bien au contraire, vous voyez, il y a une aspiration, qui est une aspiration à être cosmonaute, à être pompier éventuellement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est, finalement, hein, il y a une aspiration à faire quelque chose de soi, hein, dont on verra que ça a à voir avec le fait, finalement, de développer son identité et d'être fier de soi. Hein. Donc, être exécutant, finalement, c'est nier ce que l'on est. Ça lutte contre notre nature. Bon, c'est en ce sens, hein, que ça peut être extrêmement souffrant. Ça veut dire que exercer sa subjectivité, hein, c'est ne pas être a priori d'accord avec ce que l'on nous propose, hein, car cela supposerait que l'on puisse renoncer à notre subjectivité, et ce renoncement ne peut être que souffrant. C'est-à-dire que finalement, c'est assez normal dans notre fonctionnement de dire d'abord non, comme condition d'exercice de notre subjectivité. Dire non, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas. Ça veut dire qu'on nous donne la possibilité que l'on nous entende, sauf à considérer que nous n'avons pas de point de vue. Vous voyez ? Considérer qu'on pourrait travailler en disant oui à tout, ça voudrait dire finalement que l'on aurait renoncé à penser, ou alors, et ça serait une conjonction assez extraordinaire, hein, ça voudrait dire que finalement on soit d'accord parce que finalement ce qui nous est proposé, ça nous irait comme ça. Mais quand bien même, hein, vous voyez, hein, donc l'exercice de sa subjectivité, ça passe par la possibilité finalement qu'on a d'abord de dire non comme condition pour pouvoir dire oui. Hein, hein, le non, est, le oui est souvent assujetti au fait qu'on puisse... Bon. C'est-à-dire que donc le travail, ben, c'est une tension qui comporte une part d'angoisse et d'anxiété, d'incertitude. Comme on l'a vu, on n'est pas toujours sûr de pouvoir y arriver. Et puis on n'a pas a priori toutes les réponses. Donc ça va se poser la question finalement en termes d'action, hein, sur, alors en termes d'action c'est comment on accède à ça, et pour les personnes qui travaillent c'est finalement comment je lève les doutes et les angoisses qui sont liées finalement à cette confrontation avec le réel qui est déstabilisante, à cette confrontation avec un environnement pour lequel je n'ai pas toutes les réponses. De la possibilité d'apporter une réponse va dépendre effectivement le rapport que je vais pouvoir développer du point de vue de ma santé. Si je trouve une réponse aux questions que je me pose, ça ne va pas être pareil que si je n'ai pas de réponse. Bon, on va voir qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile d'obtenir des réponses. Ce qu'on raconte là est vrai depuis toujours, mais avec les nouvelles formes d'organisation du travail, on peut dire que ça s'est aggravé. Donc pour l'ergonome, finalement, autour de cette notion de contrainte, la question de l'action, ça va être lié finalement à la possibilité qu'on a de construire, j'allais dire, des compromis entre des exigences qui sont des exigences contradictoires. C'est-à-dire que le travail est éminemment conflictuel, c'est pas un souci ça. Le travail est conflictuel parce que il est parcouru, il est composé de ce qu'on appelle des logiques. Vous avez la logique sécurité, la logique qualité, la logique économique, la logique ressources humaines, la logique production. Chacune de ces logiques est légitime et chacune de ces logiques poursuit un but. Bon. C'est ce qu'on appelle des conflits de logique. Donc la question, c'est pas tant que le travail soit conflictuel ou qu'on soit en conflit. La question, c'est comment on se met d'accord entre différentes logiques qui, a priori, justement, ne se coordonnent pas, ne sont pas compatibles. Alors si on se met d'accord, on avance. C'est ce que les ergonomes appellent un compromis. C'est-à-dire faire en sorte que les exigences de la qualité, qui sont légitimes, mais les exigences de la production, vous savez, la qualité dit comment il faut bien faire, et la production dit comment il faut faire vite. Faire vite et bien, c'est une injonction contradictoire. Vous voyez, les opérateurs, souvent, on les forme à faire de la qualité, ça, ils sont super formés. On les forme aussi à gérer un système de production, c'est-à-dire faire face à des aléas, gérer, justement, finalement, l'inattendu. Ils savent faire. Mais finalement, comment on fait vite et bien, ça, personne ne leur a appris. C'est ça que j'appelle essayer de se mettre d'accord entre des exigences qui sont des exigences légitimes. Une entreprise, il faut que ça gagne de l'argent. Sans ça, ça ne peut pas se développer. Mais en même temps, gagner de l'argent, c'est aussi se mettre en situation de pouvoir offrir des ressources ou des moyens à ceux qui en ont besoin. Si le fait de gagner de l'argent se fait en contradiction avec les moyens et les ressources que l'on donne aux gens pour le faire, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait un certain nombre de problèmes. Donc la question, ça va être comment on discute dans une organisation. Encore une fois, la question... Alors ce que je dis là précédemment, bien évidemment, sur la question de la prise en compte de cette expérience-là du travail, ça va relever deux choses. Des connaissances que l'organisation mobilise sur le fonctionnement de l'homme. Or, on est toujours atterré quand on discute avec des ingénieurs ou des concepteurs ou finalement du peu de connaissances qu'ils ont sur comment fonctionne un bonhomme. Donc il y a un manque de connaissances finalement, qui n'est pas intégré, qui n'est pas pris en compte dans la conception d'un système de travail. Bon. Et puis ça va dépendre aussi, bien évidemment, des espaces possibles qui vont exister dans une organisation pour pouvoir justement parler, mettre en débat ces conflits du travail. Encore une fois de plus, qu'il y ait des conflits, c'est banal. On ne pourrait pas imaginer une organisation humaine, quelle qu'elle soit, par ailleurs, pas uniquement du travail, qui ne soit pas parcourue par des conflits. C'est parce qu'il y a des conflits qu'on avance, c'est parce qu'il y a des conflits qu'on trouve des idées, c'est parce qu'il y a des conflits qu'on innove. On innove parce que d'une certaine manière... on est dans de la bagarre. Et on va même aller jusqu'à dire que se battre, c'est bon pour la santé. Mais on y reviendra après. Donc, accéder, évidemment, au travail, ça va pas de soi. Je disais tout à l'heure qu'une des caractéristiques du travail, c'est également le fait qu'il relève d'une expérience sans mots. C'est une expérience du corps. Travailler, c'est faire, c'est agir. On parle de savoir incorporer. Je ne sais pas faire, mais je ne sais pas dire comment, mais je sais que je sais faire. C'est-à-dire, spontanément, nous n'avons pas les mots. C'est une connaissance en acte. Et qui peut être extrêmement raffiné. Vous savez, il y a des générations de préventeurs qui se sont esquintés à essayer de faire en sorte que les opérateurs portent des casques pour qu'ils ne deviennent pas sourds, au point de considérer, parce qu'ils ne les portaient pas, qu'ils avaient un peu de calcaire. Vous savez, les gens ne comprennent pas qu'ils deviennent sourds. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est extraordinaire le monde du travail, parce que... c'est fou le décalage qu'il y a entre la manière dont on considère les gens responsables lors du travail. Ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont des maisons, ils payent des crédits. Et au boulot, ils sont idiots. Ça colle pas. Alors bien évidemment, la sous-estimation de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la mobilisation totale hein, du corps et de la perception, fait que bien évidemment, si on nous a mis des oreilles, c'est pas pour qu'on se protège. Nos oreilles sont faites pour prélever de l'information. Voilà, c'est-à-dire qu'un opérateur gère une machine à l'oreille, il l'écoute. Voilà, notre corps, par exemple, si je prends un exemple tout simple pour capter cette dimension sensorielle du trac. Quand vous conduisez une voiture, vous voyez pas devant, précisément. Vous voyez pas derrière, précisément. Et il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui, quand ils se gardent, ne touchent ni devant ni derrière. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Que vous pouvez arriver à vous approcher de quelque chose extrêmement finement sans voir. C'est dans le corps. Et vous savez bien que quand le copain vous dit « Prends ma voiture, je te la prête. Oh, » pourtant, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on conduit. On sait conduire. Eh bien, on n'est pas bien. Et on n'est pas bien parce qu'on sait qu'on ne l'a pas dans notre corps. Et c'est d'ailleurs parce qu'on fait corps avec son environnement que les problèmes que l'on a avec l'environnement ou avec le travail vont prendre corps. Il reviendra. Alors, donc, c'est une expérience sans mots, le travail, et privé de la possibilité de mettre en mots cette expérience, être dans l'impossibilité de pouvoir s'en saisir, d'en faire quelque chose qui puisse faire que notre rapport au travail évolue ou change. La condition première, c'est qu'on puisse mettre en mots. Vous voyez, c'est-à-dire, sans mots, finalement, comment penser? Comment agir? Bon, hein, donc vous avez vu déjà, hein, dans les différentes cours, comment les nouvelles formes d'organisation du travail ont organisé le fait qu'on puisse pas mettre des mots. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Alors, la mise en mots, c'est aussi un enjeu de santé. C'est pas uniquement pouvoir exprimer une réalité, la rationaliser, et à partir de cette rationalité, pouvoir la transformer, ou pouvoir la mettre en discussion, hein, ou pouvoir finalement, y compris instruire des rapports qui soient des rapports conflictuels. Hein, c'est également un enjeu de santé. Hein, c'est-à-dire que les mots protègent le corps. C'est une des fonctions des mots. C'est-à-dire que tant que les choses sont en vous, le corps, lui, c'est au risque qu'il en fasse quelque chose. Vous voyez, autant subjectivement, on a une aptitude extraordinaire à se raconter des histoires. On se ment, on euphémise, on dit « ouais, ouais, tu sais, je... » Enfin bon, c'est ça, quoi. Le corps, lui, ne ment pas. Le corps ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter son corps. Hein. On dit « oula, je le sens pas bien », comme on dit. Ben, si vous le sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ben, que vous n'avez pas encore modélisé, hein, au sens où vous pouvez lui donner une forme, un statut, bon... Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc le corps, lui, sans mots, ben, il va réagir. Et on ne sait pas comment il va réagir. Il peut en faire une maladie. Hein. Donc la mise en mots, aujourd'hui, on est dans une vraie crise de la mise en mots du travail et de ses enjeux. Hein. Au point que justement, finalement, hein, on bascule dans la détresse ou dans la maladie. Donc le travail s'est transformé de la matière... des objets, mais le travail c'est aussi se transformer, c'est-à-dire que finalement le travail nous produit. Le fait de développer ses sens, de développer son intelligence, de développer son ingéniosité, ça nous développe nous-mêmes, c'est-à-dire que après le travail on n'est plus pareil qu'avant le travail. Hein, le travail nous permet d'aller à la rencontre de capacités que l'on a en nous, que l'on ignore. C'est pour ça que le travail, c'est une chance aussi, hein, pas que de la maladie. Hein. C'est-à-dire, quand on ne travaille pas, finalement, on est privé de la possibilité d'éprouver ce que l'on a en soi. C'est-à-dire qu'on est, privé de la possibilité, finalement, de se construire. Hein. Donc, potentiellement, le travail, c'est une source de déstabilisation, de contrainte, mais c'est également parce que le travail n'est pas donné qu'il est source de développement de soi. Donc la question du développement de soi, elle est importante au travail, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que ce n'est pas tant les contraintes, finalement, en soi, qui sont un problème, c'est finalement le sens qu'elles ont, et en quoi, finalement, le fait de me battre, de me bagarrer tous les jours, y compris peut-être pour sauver ma boîte, finalement, d'une certaine manière, ça participe de quelque chose dont je puisse être fier. Voilà. Alors, bien évidemment, notre corps a ses limites, hein, je ne développe pas là-dessus, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, parfois même, on n'écoute tellement pas son corps qu'on dépasse ces limites-là, et puis on finit effectivement dans des états d'épuisement. Mais on a une capacité, finalement, à lutter contre l'adversité qui est énorme. À tel point, d'ailleurs, que ce n'est pas tant les formes d'adversité, encore une fois de plus, qui sont un problème, c'est finalement quelle capacité on a à se défendre contre, et en quoi les ressources que l'on mobilise face à un environnement... Oui, qui n'est pas facile, quoi. C'est pas, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, il faut se battre aujourd'hui. Bon. Mais finalement, c'est le destin de cette bataille-là qui nous intéresse du point de vue de la santé. Vous voyez ? Mais ce n'est pas le fait de se battre. Au contraire, même, le fait de se battre, c'est bon pour la santé. Hein. C'est-à-dire, la santé, voire même la souffrance, elle n'est pas dans le fait d'être agressé. La souffrance, elle est dans le fait de ne pas pouvoir se défendre. Et oui, c'est ça qui est coûteux. Être agressé, c'est banal. Non, les formes d'agression sont multiples, variées, elles ont toujours existé. Probablement, ce qui a changé avec les nouvelles formes d'organisation du travail et la thématique du risque psychosocial, c'est que les gens se défendent de moins en moins. Mais se défendre, c'est de la santé. Quand un virus vous attaque, là, si ça se trouve en ce moment, il y a des virus qui tournent, là, qui cherchent à pénétrer, qui cherchent à nous rendre malades, ben, il y a tout un tas de processus, là, évidemment, heureusement qu'on les ignore, hein, qui sont en train de faire en sorte pour nous protéger de ça. Le corps se bat. C'est parce qu'il se bat qu'il acquiert une capacité, justement, à être en bonne santé. Donc se défendre, c'est pas être en bonne santé, c'est pas se protéger uniquement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais être en bonne santé, c'est justement finalement construire de la capacité d'action, de la capacité d'agir, et c'est se battre. C'est quand on ne se bat plus, ou qu'on pense que l'on ne peut plus se battre, pour tout un tas de raisons, que finalement, on commence à être sur un parcours et un processus qui peut s'avérer effectivement extrêmement dommageable pour notre santé. Donc il ne s'agit pas de supprimer les efforts et les contraintes. Ça n'a pas de sens. Donc trouver des réponses à ce qui nous déstabilise, évidemment, aux questions que sont posées, ben, cela va dépendre pas que de nous-mêmes, voilà, parce que d'abord on n'est pas intelligent tout seul, la pensée ne s'exerce pas tout seul. Pour trouver des solutions, il faut au moins, au minimum, être deux, ce qui va poser finalement la question de des collectifs de travail et de l'espace que ces collectifs ils occupent ou non là où je suis. Bien évidemment, si j'ai beaucoup d'adversité ou de questions, mais qu'en même temps j'ai beaucoup de ressources sociales, humaines autour de moi, de la part de mes collègues, et de bon, je suis dans une situation où j'ai de la capacité de réponse qui est forte. Mais si je suis confronté à des situations qui me mettent en doute, qui me culpabilisent, qui m'empêchent d'une certaine manière, parce que je me pose la question de la légitimité que j'ai à agir d'une manière autonome, c'est-à-dire que je suis privé de la possibilité d'apporter des réponses, de me défendre. Se défendre, c'est apporter une réponse à quelque chose aussi. Vous voyez, hein ? Bon. Donc la question du collectif va être importante. S'il y a ou s'il n'y a pas, c'est pas pareil le destin du travail. Donc les dilemmes auxquels on va se confronter, si on n'a pas la possibilité de les socialiser, hein, socialiser nos doutes, nos questions, ce qui nous habilite, c'est au risque que l'on puisse apporter une réponse satisfaisante, c'est au risque alors de subir son environnement. Et il faut donc pouvoir disposer dans l'organisation du travail d'un accès aux autres et la possibilité d'exprimer sa parole pour pouvoir exister. C'est sûr que les organisations dans lesquelles il existe des collectifs de travail, dans lesquelles il est possible, voilà, de parler du travail réel, le destin de la contrainte ou de ce qui peut être agressant, déstabilisant, n'est pas le même que dans les organisations où on prive les gens de la possibilité, effectivement, de parler. Voilà, hein, c'est-à-dire de mettre en forme de débat, hein, c'est-à-dire de poser des désaccords. Hein. Alors, on voit bien que les nouvelles formes d'organisation du travail, hein, ce qu'on a pu vous en dire, bah, une des caractéristiques des nouvelles formes d'organisation du travail, c'est qu'elles sont basées sur le déni du travail réel, déjà. La fonction managériale, elle a été instituée pour faire en sorte que justement fasse disparaître le travail. Parce que vous le savez bien, la fonction managériale, c'est de s'occuper des objectifs, des résultats, des reportings, mais pas du travail réel. Nous, souvent, ergonomes dans les entreprises, les gens nous disent « Ah, mais mon chef, il ne sait pas ce que je fais. » Mais c'est normal, il est payé pour ça. Parce que s'il savait ce que vous faisiez concrètement, et donc la nature des efforts, la nature des contraintes que vous gérez, la nature des décisions que vous prenez, la nature des déstabilisations dans lesquelles vous pouvez être par rapport au travail, et bien d'une certaine manière, il serait une ressource. Vous voyez ce qui a changé par rapport aux anciennes formes d'organisation du travail, j'allais dire. C'est pas que les agressions, finalement, bon d'accord, elles sont de nature différente, mais bon, on était aussi malmenés, hein, il y a 40 ou 50 ans. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus d'interlocuteurs. C'est-à-dire que la question de l'intensification du travail, elle est basée sur le fait qu'effectivement, on s'autorise à demander n'importe quoi aux gens. Mais on s'autorise d'autant plus facilement à demander n'importe quoi aux gens qu'on a fait disparaître le travail réel. Vous voyez, c'est-à-dire, la subjectivité du manager est protégée. D'ailleurs, souvent, le manager, il dit, mais attendez, moi, ma responsabilité, c'est pas de vous dire comment il faut faire le travail. Ma responsabilité, c'est de le contrôler et de m'assurer qu'effectivement, les résultats qui sont les résultats qu'on attend, c'est bien effectivement, en tout cas, ils sont bien là, ces résultats-là. Bon, mais c'est pas de vous dire comment on fait. Hein. C'est-à-dire que, nouvelle forme d'organisation du travail, on fait que l'organisation du travail est de moins en moins en capacité de prescrire le travail. Nous avons des prescriptions d'objectifs, de résultats. Mais comment on fait pour y arriver ? Plus personne n'est en capacité de le dire. C'est ça qui a changé. Alors avant, on avait de la prescription, on avait même trop de prescriptions. On disait, oui, mais le prescrit, ça empêche, ça enferme, ça limite les possibilités. Oui, mais il y avait des repères, il y avait un cadre, finalement. Sans repères, comment voulez-vous qu'on discute de quelque chose ? C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on puisse dénoncer quelque chose, se mettre en, voilà, en contrepoint de quelque chose ? Donc ça, vous voyez, c'est une des caractéristiques, hein, c'est-à-dire extrêmement difficile de penser aujourd'hui le travail, parce que d'une certaine façon, on peut considérer que le travail et ses conditions de réalisation ne sont plus un objet. C'est terminé. Bon, alors il a fallu organiser ça. Pour organiser ça, il a fallu déjà délégitimer dans l'organisation du travail et dans le processus de responsabilité tous ceux qui venaient du terrain. C'est très rare aujourd'hui de commencer ouvrier et de finir cadre. Alors non pas parce que, on va dire, il y a tellement de diplômés sur le marché de l'emploi que finalement il faut bien les caser. Bon, c'est une variable, hein, bien sûr qui est importante, mais tout simplement parce qu'on veut pas des gens qui ont encore la mémoire de ce que c'est que de faire le travail. Parce qu'un cadre qui connaît votre travail, ben, finalement il sait ce qu'il peut vous demander et pas vous demander. Il a fait le boulot, non ? Il connaît la limite des choses. Voilà. À partir du moment où la question c'est le non-limite, il faut faire disparaître tous les gens qui sont des acteurs de la limite. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui peuvent dire, ben non, je ne peux pas demander ça. Donc c'est pour ça que cette mémoire-là, on n'en veut plus à un certain niveau. Voilà. Parce que finalement, justement, elle ne permet pas de demander, effectivement, d'avoir des exigences qui sont des exigences, finalement, infinies. Alors, j'essaie de regarder. Oui, le travail, c'est aussi. On prendra un certain nombre de choses qui sont discutées comme ça, je l'espère, au travers de vos questions. Hein, ça permettra effectivement de compléter. Alors, je disais tout à l'heure que dans la question de la prise en compte du travail, il y avait aussi finalement le travail comme relevant d'une expérience sociale. Hein, c'est-à-dire, c'est. Donc, c'est une expérience de la rencontre avec des personnes, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas choisies. Et puis, c'est aussi l'expérience du fait qu'on ne peut pas être compétent tout seul. C'est également s'inscrire dans une conformité où la question de notre singularité, de notre originalité puisse se rendre compatible avec autrui. C'est-à-dire travailler, c'est apprendre finalement à se conformer à un ordre, à une organisation sociale. Parce qu'il n'y a aucune raison que les autres nous acceptent comme on est. C'est ce qui nous socialise, par ailleurs. C'est ce qui nous apprend à vivre avec les autres. C'est ce qui nous apprend à avoir des rapports cordiaux avec les autres. Dans notre environnement personnel, on est en relation avec des gens avec lesquels on a des affinités. Au travail, justement, on n'a pas besoin d'avoir d'affinités pour s'entendre. Ce qui va être important dans le travail, c'est comment on est en accord ou en désaccord sur le travail. C'est pour ça qu'il faut suspendre, bien évidemment, toute cette convocation que l'organisation du travail, elle nous a fait pendant des années, finalement, à nous faire croire que pour travailler ensemble, il fallait que nous ayons des affinités. Vous voyez, qu'on allait faire du saut à l'élastique ensemble, du parapente, enfin, tout un tas d'affinités comme ça, qui ont nourri des générations de consultants, mais qui sont vraiment une horreur, quoi, finalement. Pour travailler ensemble, ce qu'on a besoin, c'est d'être d'accord sur ce qu'on fait. Voilà. Et on est les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, on va considérer que nous n'avons pas de conflit de personnes. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est ce qu'on nous a mis en tête pour justifier le fait que, justement, en faisant des conflits de personnes, on se protégeait du fait de considérer que c'était des conflits de travail. C'est beaucoup plus facile de virer des gens pervers, entre guillemets, si possible. Alors, c'est encore mieux, ça. Que finalement, d'essayer de réfléchir à comment on peut faire évoluer l'organisation du travail. Donc nous n'avons pas de conflit de personnalité. Nous avons des conflits de travail qui, quand ils ne se traitent pas à partir du travail, vont dégénérer en conflit de personnalité. Vous voyez, Donc ce sens, voilà, que tant qu'on reste sur la question du travail, c'est-à-dire le travail est opérateur et médiateur finalement de la relation, et tant que le travail est médiateur de la relation, nous avons des relations extraordinaires au boulot. Mais il y a des gens au boulot qu'on trouve extraordinaires, on les supporterait pas 5 minutes dans son salon, et a fortiori partir en vacances avec, vous l'imaginez même pas, et pourtant ils sont formidables. Voilà, parce qu'ils nous aident, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez. Alors, c'est comme ça aussi qu'on développe du social. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on apprend à vivre avec des gens différents de nous, avec lesquels on n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça que tout ce courant sur les valeurs, qu'on ait des valeurs communes et tout, au secours. Ça, alors, pour se mettre en tension, pour générer de la violence au travail. Il n'y a pas mieux qu'essayer effectivement de discuter de nos valeurs. Nos valeurs, c'est nos valeurs. On n'en a rien à foutre, pour parler trivialement. Ce qui importe, c'est les valeurs du travail. Ça m'intéresse. Travail bien fait, nanana, tout ce qu'on peut mettre dans le travail. Éthique, déontologie, tout ce qu'on veut. Ça, oui, ça, on peut créer. Ça, il faut en discuter, même, des valeurs du travail. Mais nos valeurs, ce que vous pensez du monde, ce que je pense du monde, au secours. Vous voyez ? Donc, il y a tout un courant du management moderne, hein, qui a tiré les salariés vers, justement, finalement, le fait d'aller sur ce genre de choses. Il a généré une souffrance effectivement terrible, et en plus, ça sert strictement à rien. Donc, je vous rappelle que c'est comme ça qu'on peut comprendre le harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement ne relève pas une histoire de pervers. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant de pervers ? Attendez, c'est une épidémie ? C'est quoi ? C'est un virus ? Il faut arrêter aussi avec ça. On peut comprendre le harcèlement quand on a compris finalement en quoi les nouvelles formes d'organisation du travail aujourd'hui désocialisent les relations entre les gens. Comme nous n'avons plus véritablement de relations de travail, voire de conflits de travail, parce qu'être en désaccord sur le boulot, c'est normal. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein, le travail pousse à ça. Bon. Mais comme le travail n'occupe plus cette place-là, il reste quoi ? Ben, les rapports interpersonnels. C'est-à-dire si la relation n'est plus médiée par le travail, la relation devient relationnelle. D'ailleurs, le management participe de ça, vu qu'il n'est plus sur le travail réel, ou peu sur le travail réel, et qu'il n'est pas, pour beaucoup de personnes, une ressource, qui est une ressource, finalement, pour justement, finalement, trouver des solutions. Ça veut dire qu'il est relationnel. Et évidemment, à partir du moment où les rapports sont relationnels, ben, c'est au risque, justement, qu'on se confronte, qu'on soit en conflit de personne. Et puis là, on va dire, effectivement, les pervers, bon, c'est pour ça qu'on va considérer, mais bon, ça nécessiterait des développements, finalement, que le pervers est aussi une victime de l'organisation du travail. Donc, les autres, c'est important, parce qu'ils définissent le cadre de ce qui est acceptable ou non, tolérable ou non, quand il est possible d'élaborer un cadre, voire des règles de métier. Et quand cela n'est pas possible, alors c'est au risque de la violence interpersonnelle, parce que nous n'avons rien à faire ensemble au boulot. On a tous autre chose à foutre. Hein. Alors là... Donc, si on ne partage plus le travail, si on, voilà. Bon. Donc, ce qui va permettre ce mouvement, ben, c'est le travail, justement. Si le travail est médiateur, comme je le disais tout à l'heure dans la relation, alors le travail permet que la diversité que nous représentons se rencontre. Sans cela, c'est au risque du conflit relationnel. Et donc, du conflit relationnel dans sa forme, évidemment, la plus dégradée, qui peut être, effectivement, le harcèlement. C'est-à-dire que je n'ai même plus la possibilité de dire à quelqu'un « Je ne suis pas d'accord ». Sur la manière dont tu travailles. Ça, j'ai le droit de dire ça, bien sûr. On a le droit d'être en désaccord sur la manière dont on fait le travail. À partir du moment où le travail est évacué, c'est toi le problème. C'est toi ci, c'est toi ça, c'est toi qui n'es pas conforme. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est quelque chose, justement, qui va faire le lit de quelque chose, bien évidemment, d'extrêmement souffrant. Hein, mais il n'y a plus de médiation possible. Hein, bon. Donc le harcèlement moral est l'illustration d'une dégradation extrême du lien social qui vient du fait qu'il n'y a plus de référence au travail, au réel, le travail n'a plus sa fonction de médiation hein, des rapports sociaux, ben, les rapports sociaux deviennent relationnels. Et on a des confrontations relationnelles. C'est toi, c'est moi, il n'y a plus d'arbitrage par le travail, et d'autant que le management, comme on l'a dit, ne s'occupe plus du travail réel, mais des indicateurs, il est devenu relationnel. Hein, les rapports étant basés sur le relationnel, les problèmes deviennent, comme on l'a dit, relationnels. Donc les conflits qualifiés de personnalité sont des conflits qui, par défaut de se traiter par le travail, hein, et considérés que ce sont des conflits de travail, vont se réaliser dans des rapports de violence relationnelle. Encore une fois de plus, l'importance du travail. Hein, c'est-à-dire, c'est, à partir du moment où on s'écarte de la question du travail, alors c'est extrêmement difficile d'arriver à penser hein, qui peut se passer effectivement dans le travail. Alors, avoir des conflits, j'ai dit tout à l'heure, c'est normal. C'est-à-dire, c'est pas possible de penser qu'on ne pourrait pas avoir de conflits. C'est pas le fait d'avoir des conflits qui est un problème. La question, c'est comment finalement on crée des processus où justement on a accès à la possibilité de se mettre en accord. Hein, bon, voilà. Hein, c'est-à-dire parce qu'on sait bien que nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre d'accord. Donc, c'est banal d'avoir des conflits. C'est justement quand il n'y a plus d'espace de conflictualité, de désaccord sur le travail, que les choses deviennent violentes, souffrantes, au point justement qu'on en fasse une maladie. Je ne peux même plus manifester dans mon organisation que je suis en désaccord. Terminé. C'est-à-dire que finalement, je suis condamné à subir. C'est, encore une fois de plus, c'est subir qui est pénible. Hein. C'est pas finalement d'être contrarié. On tombe pas malade à chaque fois qu'on est contrarié. Hein. Sans ça, on serait tous malades tout le temps. Donc c'est banal, les conflits, bon, voilà, c'est-à-dire c'est que la violence finalement qui est faite, elle est dans ce qui est empêché. Hein, empêché du point de vue de l'action, de l'agir, empêché du point de vue finalement de la possibilité de l'exprimer, de le dire. Hein, c'est dangereux, ça peut se retourner contre nous. Indépendamment et avec la difficulté que l'on a à dire, hein, on disait tout à l'heure que justement les mots on les a pas a priori. Hein, l'expérience du travail est dans le corps, hein, on garde ça en mémoire. Donc faire face aux adversités du travail, c'est pas pareil si on est seul, on est plusieurs, évidemment, le sens que cela dépend de la possibilité de socialiser ses doutes, ses questions, pour trouver une issue qui puisse être satisfaisante, et que l'on peut assumer, parce que cela peut en valoir le coup de se bagarrer. Voilà. Hein, voilà. Ça peut en valoir la peine. Alors, évidemment, le fait que ça en vaille le coup, et que ça en vaille la peine, ça dépend bien évidemment justement de comment l'organisation du travail l'accuse réception du travail réel. C'est-à-dire, quelle capacité l'organisation du travail elle a de mesurer nos efforts, de mesurer ce qu'il nous en coûte. Voyez bien que quand vous êtes dans une organisation qui est basée sur le culte de l'objectif et du résultat, à partir du moment où vous n'avez pas atteint votre résultat, votre objectif, finalement c'est comme si vous n'aviez pas travaillé. Or, on sait tous ici que, évidemment, c'est loin d'être le cas. On peut avoir travaillé énormément et pas l'atteindre, ce bon sens d'objectif. Vous voyez, c'est-à-dire que... Alors, si on ne reconnaît pas cet effort-là qu'on a fait pour atteindre éventuellement l'objectif, eh bien, c'est au risque, effectivement, que cette peine, parce que c'est un effort, finalement, n'ait plus de sens. Ce qui va donner le sens à nos efforts, c'est la reconnaissance. C'est pour ça que la reconnaissance, c'est important. Sans reconnaissance, on a du mal à construire le sens de la peine que l'on se donne. Finalement, pourquoi on se donne autant de peine, quoi? Ça vaut le coup? Alors, la reconnaissance, évidemment, voilà, c'est quelque chose qui va participer, hein, finalement, de le dire, ça vaut le coup. Voilà. Parce que faire des efforts, je peux être fier de faire des efforts. Me battre pour quelque chose, faire avoir, je peux être fier de ça. Vous voyez, on est rarement fier de ne rien faire. On est rarement fier d'être un je m'en foutiste. On est rarement fier, finalement, de dire oh non, moi, je m'arrange pour en faire le moins possible. C'est difficile de construire l'estime de soi. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la question de l'effort, dans la question effectivement de cette mobilisation-là dans le travail, se joue quelque chose qui a à voir avec le développement de l'estime de soi et de la fierté. Alors, quand le travail, il est opérateur d'estime de soi et de fierté, alors des efforts, on peut en faire, quoi. Ça vaut le coup. Voilà. Je peux être... Mais quand on est plus fier de ce que l'on fait, parce que le travail est attaqué, parce que la qualité au travail est attaquée, parce que ce qu'on me demande de faire me met dans des postures qui sont des postures du point de vue de mes valeurs, alors à ce moment-là, le travail, l'adversité, là, le fait que c'est pas facile, ça vaut plus le coup. Vous voyez ? Donc les organisations du travail, elles entretiennent, hein, c'est flou, hein, dans la définition. Juste pour vous donner un exemple, hein, bon, c'est dans les métiers de service, notamment tout ce qui est vente, enfin bon, mutuelle, banque, bon, on entretient une confusion sciemment entre vendre et conseiller. Pour l'organisation du travail, conseiller, c'est vendre. Un bon conseil, ça se traduit par une vente. Mais pour un conseiller, nous qui sommes consommateurs, un conseil, c'est un conseil, c'est-à-dire que finalement, on me donne un conseil et puis je vais réfléchir. Non, non, non. Si vous donnez un conseil et que la personne réfléchit, c'est que vous avez mal conseillé. Donc c'est quoi conseiller, c'est quoi vendre ? je sais plus, parce que vendre à la limite je peux faire, hein. Bon, à la limite, même s'il faut vendre je sais pas quoi, des gens qui ont pas de jambes ou quoi que ce soit, après tout, bon, ça peut poser des problèmes de, bon, mais enfin bon, faut vendre parce que c'est bon, mais vous voyez, c'est-à-dire créer une confusion là entre le conseil et la vente, c'est générateur de beaucoup de souffrances. Vous voyez, c'est bien. C'est comme ça qu'on comprend que le conseiller, à partir du moment où un bon conseiller, c'est quelqu'un qui vous a vendu quelque chose, même que vous n'aviez pas besoin, bah, on n'est pas loin de la manipulation. Comment être fier de ça? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est difficile. Voilà. Donc voilà, c'est ces enjeux-là qui sont des enjeux de souffrance. Bon, alors ce qui est nouveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas d'être agressé, ce qui est nouveau, bah, c'est qu'on peut plus se défendre, finalement. Et que la question qu'on devrait se poser, c'est comment se fait-il qu'on se défende plus? Il suffit de se défendre, dire stop, j'en ai marre, assez! On descend tous en bas, on dit on arrête de travailler! Et puis le système, là, au secours! Pourquoi on le fait pas? Posez-vous la question, pourquoi on le fait pas? Ah, si on le faisait, je pense que le destin de la santé, les problèmes, là, de souffrance au travail, ils seraient d'une autre nature. C'est-à-dire, comment obtient-on de nous le fait qu'on ne se défende plus? C'est ça qui est intéressant, hein, comme problématique. Alors, voilà, on l'explique, hein, c'est-à-dire la question de la privation des mots, l'empêchement à penser, c'est-à-dire difficile d'agir, parce que le monde a même du mal à penser ce qui arrive, le fait que tout le monde est victime, l'organisation du travail, elle a travaillé à produire victime. Quand vous discutez aujourd'hui avec un dirigeant d'entreprise, vous dites, mais attendez, monsieur Couturin, moi je suis un salarié, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a fallu créer les actionnaires, pour créer le maximum de domination et de soumission. Or, l'actionnaire, c'est qui? C'est vous, c'est moi, ceux qui ont des assurances-vie, là. Vous savez comment ça travaille, les assurances-vie? Vous avez été voir sur quel fonds de pension c'est placé? Mais si ça se trouve, c'est placé dans les fonds de pension qui possèdent votre entreprise, fonds de pension qui demandent effectivement un retour sur investissement de 30% par an. Vous voyez, c'est-à-dire tous complices, on est tous dedans, on est pris tous là-dedans. Bon, alors évidemment, le directeur, aujourd'hui, il fait partie d'une filiale qui elle-même est régie. Donc, extrêmement difficile de se défendre quand on n'a pas d'interlocuteur. Les nouvelles formes d'organisation ont travaillé à faire disparaître les interlocuteurs. D'abord, les interlocuteurs de terrain, plus personne n'est capable de dire comment on va faire le boulot, c'est démerde-toi en gros. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas assez bon. Mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Ok? Bon. Et puis, il a fallu faire disparaître les interlocuteurs ailleurs. Et ça aussi, c'est un changement. Avant, on avait la figure, finalement, de celui qui possédait l'entreprise. Il n'était pas loin. Des fois, il habitait à quelques kilomètres de l'usine. Hein, j'avais le sentiment que je pouvais m'adresser directement à lui. Aujourd'hui, on s'adresse à qui, à quoi? Il n'y en a pas. Vous voyez, c'est-à-dire... difficile, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait système. Hein, bon. Alors, je vois que le temps passe. Donc, le déni du travail réel, évidemment, suppose également faire disparaître les interlocuteurs, ce qu'on disait, qui aurait une légitimité sur le travail réel. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on a institué la fonction managériale. Donc, le déni du travail réel suppose que l'on attribue aux salariés le soin de trouver les réponses, tout seul aux questions qu'ils se posent, sans pour autant reconnaître cet apport singulier. Mais sans considérant que cela fait partie intégrante de ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, dans votre contrat de travail, on attend effectivement que vous trouviez des solutions à des questions, à des problèmes auxquels souvent vos organisations du travail ont renoncé à trouver des réponses. C'est-à-dire qu'on est passé d'une prescription du corps au travail à une prescription de la subjectivité. Donc à partir du moment où la subjectivité, elle est prescrite, vous ne voulez quand même pas en plus qu'on la reconnaisse. Maintenant, vous n'avez pas d'autre choix pour travailler que d'être ingénieux, intelligent, innovant. Sans ça, ça va devenir difficile. Donc voilà, au moins avant, on se crevait et tout, mais on mettait de l'intelligence dans le travail, évidemment, il aurait toujours fallu en mettre, hein, parce que sans ça, ça marche pas le travail. Hein. Et puis on pouvait espérer qu'on reconnaisse cette intelligence. Aujourd'hui, non. Si t'es pas intelligent, t'as rien à faire ici. Vous voyez, banalisation, finalement, de cet engagement-là. Donc on a de plus en plus de mal à contester, évidemment, les moyens du travail, car le moyen du travail, c'est devenu nous. Nous sommes le moyen du travail. Alors comment se défendre, hein, si on n'a plus d'interlocuteur? Comment se défendre si on ne peut plus parler du travail réel? Alors on parle de quoi? On pense à quoi? Donc encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est pas tant la question de l'adversité, hein, ou de ce qui nous agresse, qui est nouveau, Ce qui est nouveau, c'est que les personnes ne se défendent plus, ne sont plus en capacité de se défendre, ne sont plus en capacité de développer d'autres ressources, d'autres capacités d'action. Hein. Se défendre contre, voilà, quoi, qui, finalement, vous voyez, difficile. La mondialisation, le, on va faire la guerre aux Chinois, vous voyez. C'est-à-dire, eh ben oui, c'est, voilà, c'est leur faute. J'ai pas de Chinois en face de moi pour dire, attendez, monsieur, vous regardez un peu mes conditions, et puis nous, si on regardait les conditions dans lesquelles on les fait travailler pour acheter les chemises qu'on achète. Mais ceci dit, ça, ça nous ouvre une porte. Parce que les Chinois aussi commencent à en avoir marre. C'est pour ça que... Oui, oui, absolument. Ça se retourne. Vous voyez, on a le textile, il a d'abord été délocalisé avec les problèmes de TMS et tout, et de coup, sur le Maghreb. Il n'y a plus de fabrication de textile au Maghreb, maintenant. Bon, c'est parti en Chine, et maintenant, ils ont délocalisé, comme vous le savez, en Inde. Et maintenant, d'Inde, ils localisent au Soudan. Ils vont faire le tour de la Terre, on est d'accord, hein. Mais à un moment donné, il va falloir quand même revenir, hein. Vous voyez, parce que, justement, il y a des consciences, les problèmes que génèrent, les problèmes de santé générés dans les pays du tiers-monde sont catastrophiques, et puis sans aucune ressource hein, pour les traiter. Donc le Chinois, il est fait comme nous, voilà. Il a aussi une capacité à en avoir marre. Il faut qu'on attende un peu, voilà, il faut patienter, voilà, en attendant, mais moi ça va arriver. Bon. Alors évidemment, hein, bon, tout le monde victime, bon, et donc finalement il y a une convocation aujourd'hui finalement, c'est-à-dire c'est tenir malgré tout ou partir, c'est-à-dire finalement nous-mêmes on participe finalement du déni du travail réel, parce que penser notre réalité, penser notre travail réel, ben, c'est souffrant quoi, et on n'a pas de réponse. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler des stratégies défensives. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça, finalement, de fuite hein, dans le fait de se protéger de penser, finalement. Alors, évidemment, bon, moi, je ne suis pas toujours très fier non plus de ce que je fais en tant qu'intervenant, hein, j'en dirais deux mots, parce que on voit bien qu'au travers de ce qu'on discute là, on paye un tas de gens pour tenir, aujourd'hui. Des ergonomes, des médecins, des psychologues, des préventeurs, ajoutez tout ce qu'on veut. Bon. Pour faire en sorte, quoi, finalement, que ça tienne, quoi, que ça... Bon, pas que ça transforme, pas que ça change, pas que vraiment il y ait... Mais un bricolage, quoi, hein, bon. Et on participe d'une certaine manière, finalement, à ça aussi. Parce que le modèle dominant, finalement, on discutera peut-être tout à l'heure dans vos questions, bah, on n'a plus de prise sur lui. Voilà, c'est-à-dire, finalement, hein... Bon. Donc la souffrance est dans le fait de ne pas pouvoir se défendre, comment être fier d'accepter ce que l'on ne devrait pas. Comment être fier de subir sans rien dire? C'est ça qu'attaque les gens. Non seulement j'ai le sentiment d'être victime, mais en plus, je ferme ma gueule. C'est violent. C'est violent. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner des fois qu'on ait des relations extrêmement violentes. Alors, pour conclure sur la question de l'action, je vais passer sur les formes d'organisation du travail, vous les connaissez, vous en avez déjà parlé avec d'autres. Donc finalement, l'action, hein, comme vous l'avez compris, ça passe pas uniquement par le fait de faire exister les contraintes qui en coûtent à ceux qui travaillent pour réaliser leurs tâches. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de comprendre et de connaître pour que ça change. Ça se saurait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de méthode. En tout cas, agir pour l'ergonome, c'est déjà créer les conditions sociales de l'action. C'est-à-dire créer les conditions d'un rapport de force dans l'entreprise, entre ceux qui font le travail, voilà, ceux qui ont, voilà, on paye le prix, et ceux, entre guillemets, qui ont les moyens et les capacités d'action. C'est-à-dire l'action, elle est vraiment, alors au-delà du diagnostic, c'est-à-dire, hein, voilà, de mettre des mots, bien évidemment, d'objectiver autant que faire se peut cette réalité pour pouvoir en parler. Si on ne crée pas les conditions finalement d'un débat, si on ne fait pas faire à l'entreprise l'expérience de ce que c'est que de se confronter à des points de vue qui sont des points de vue contradictoires, alors on a peu de chances que les choses évoluent. Donc la méthode, elle est aussi finalement dans cette possibilité-là. Bon. Parce que ça a au moins deux effets, hein, la possibilité de créer ces conditions sociales-là du dialogue. Premier effet, c'est que finalement ça soulage pas mal de gens rien que d'en parler, c'est-à-dire on n'a encore rien transformé, que finalement tout simplement arriver à mettre des mots et à penser sa réalité... Ça permet effectivement à des gens, finalement, de commencer à faire un travail d'appropriation, de compréhension de quoi, finalement, éventuellement, ils sont victimes. Ça permet aussi, également, finalement, de commencer à se construire une aptitude à se défendre. Et tant que je ne sais pas, tant que je ne connais pas, tant que je n'arrive pas à nommer, difficile finalement de me défendre. Et puis, de ces rapports de force de discussion dans l'organisation, rien n'empêche effectivement qu'on arrive à trouver des solutions, c'est-à-dire des équilibres. Encore une fois de plus, je vous disais que la solution pour l'ergonome, c'est le compromis. Le statut de la solution pour nous, c'est comment on construit un équilibre entre des exigences qui peuvent être contradictoires. C'est la notion d'équilibre qui est importante. La solution efficace, pérenne, qui s'inscrit dans le temps, celle-là, elle n'a jamais véritablement existé. Mais comment construire un équilibre, Ça, pour construire un équilibre, il faut être plusieurs, par essence. Donc moi, je suis convaincu sans rapport de force, peu de choses peuvent évoluer rapidement. Alors, rapport de force que les problèmes instruisent eux-mêmes, via le coût que cela représente pour la société, dit-il que je vous donne le chiffre du coût que représente la santé, c'est plusieurs points de PIB, c'est énorme, donc il y a quand même un enjeu derrière ça qui est pas neutre. Rapport de force social, via l'action des partenaires sociaux, bien sûr, et puis, de leur modalité d'action, de leur possibilité d'action. C'est clair que c'est une modalité qui est importante dans un processus de transformation et de changement. Et puis, il y a aussi le citoyen, l'information. Vous savez, sur les suicides, c'est pas nouveau. Moi, je ne sais plus quand j'ai commencé à faire mes études, mais les suicides au travail, il y en a toujours eu. D'ailleurs, il y a un secteur où il y en a, mais on n'en parle pas. Gendarmerie, chez les médecins. C'est marrant, on ne parle pas de ça. Mais sur la vague de suicides qu'il y a eu consécutivement, effectivement, à ce qui s'est passé chez Renault, c'est la médiatisation qui a fait bouger les choses. C'est pas les experts, les connaissances et tout ce qu'on savait sur suicide, parce que ce que je vous racontais sur le travail, on le sait depuis 30 ans, 40 ans, même plus, certains aspects. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la transformation, elle est à la croisée de tout ça. Et je pense que la conscience sociale, aujourd'hui, elle est forte, C'est-à-dire du côté... on est de moins en moins fiers, finalement, d'acheter des trucs qui ont été fabriqués dans des conditions qu'on voit avec des gens qui meurent pour fabriquer ce qu'on porte. Ça fait son chemin. Alors, c'est pas très visible. C'est pas très présent sur la scène, comme ça. Bon, sauf que c'est là. Vous voyez, je crois beaucoup à ça aussi, C'est-à-dire à comment on avance, finalement, sur la transformation et la modification des systèmes de travail, sur les rapports de force... évidemment pour faire exister un autre point de vue que le point de vue de ceux qui s'arrogent le droit et les connaissances sur le travail, et puis bien évidemment via effectivement je pense les citoyens, plus globalement je dirais le politique. RPS ça existe parce qu'il y a eu une prise de position politique suite effectivement à la médiatisation. Sans ça, ça n'existerait pas. En quelque sorte, ou ça aurait mis beaucoup plus de temps pour qu'on en soit là. J'ai envie de lancer la discussion. Voilà. Je vous remercie de votre écoute attentive. Alors n'hésitez pas, là, quelques questions, ça permet de faire des développements, des éclaircissements, et puis oui.
Là, vous avez parlé de problèmes techniques collectifs en relevant les contentieux. Alors, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même des actionnaires qui ont un pouvoir très important, et c'est eux qui mènent à tout dire. Je ne sais pas,
oui, vous en pensez. Pas les quelques euros que j'ai personnellement, qui pèsent beaucoup. Vous voyez, on est là-dedans. Vous savez, une des conditions pour faire que France Télécom ait été réalisée, c'était de rendre les salariés actionnaires. Ah oui! Donc au début, ils ont vu l'action, elle a grimpé fort. Puis après, quand elle commence à se casser la gueule, et maintenant, je crois qu'elle est dans les godasses, c'est pas où elle est. Finalement, vous voyez, c'est comme ça, finalement. C'est-à-dire, Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui participe de ça. Le fait de faire disparaître la figure, c'est la figure de la responsabilité. L'actionnaire, il est génial pour ça. Parce que l'actionnaire, c'est moi, des deux mondes, qu'on en fera plein la rue de l'actionnaire. On va attraper l'actionnaire en disant, tu te rends compte des conditions de vie que tu veux faire, parce que toi, tu veux que ça rapporte 3% ou 2% ou tel. Vous voyez, c'est ça être désarmé. Le formidable travail, finalement, où on a de plus en plus de mal à savoir à qui s'adresser, sauf à finalement considérer que c'est une fatalité. Voilà, tous victimes. Alors, essayons de tenir, de résister, le temps qu'on peut, là où on est, mais pendant qu'on fait ça, on se mure, on ne regarde plus son voisin, on ne l'écoute plus. Parce que je ne sais pas quoi faire de ça. Et ça renforce encore le fait qu'on rentre dans des processus d'isolement, qu'on se socialise moins. Parce que finalement, se socialiser, prendre conscience, finalement, de ce que l'on vit et de ce que légitimement considérer comme la s'ouvrir. Parce que justement, il n'y a plus la partie, on n'a pas la réponse. Alors, bien sûr qu'il y a... Bien sûr qu'il y a un problème, évidemment, hein, c'est-à-dire que... alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait des gens dont la finalité, c'est de faire le mal, attention. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin en disant « Je vais pourrir la vie !» C'est un peu plus compliqué que ça, justement, finalement. Je crois qu'on arrive, finalement, à faire nous, comme on le disait, des complices. Sans qu'on s'en rende compte au nom de... Oui, d'idéologie, bien sûr, hein, de vision, de point de vue sur l'économie, bon, alors, c'est pas à vous que je vais apprendre que, bien évidemment, hein, la question de la financiarisation du travail, c'est pas pareil que l'économie du travail. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas tant ce que ça rapporte. C'est, on ferme les entreprises aujourd'hui parce qu'elles ne rapportent pas assez. Pas parce qu'elles ne rapportent pas, parce qu'elles ne rapportent pas. Bon, pas plus. Parce que ça ne rapporte pas assez. C'est un paradigme, là, finalement, qui fait que ça a attrapé tout le monde. Puis je pense qu'y compris les États, de toute façon, quand vous regardez la marge de manœuvre d'un État aujourd'hui, c'est quoi ? C'est comme nous avec notre banquier, c'est les guillotins. Hein. Il dit, attendez, là, si je suis plaisir, je vous mets la rue. C'est une espèce de tout qui s'est emballé. Là. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout qualifié et compétent pour faire l'histoire de ça. Hein. Bon. Et je pense que c'est un processus qui est assez rapide. A concouru finalement justement à faire de nous tous des impuissants. Parce que du coup, après, on peut faire des choses.
Oui.
Est-ce que le fait d'être privé de travail, le travail est un risque psychosocial?
D'être privé de travail, le travail, oui, c'est horrible. C'est pire que ce qui est arrivé, ça. Bien sûr, parce que comment comprendre ça? C'est-à-dire que ce que vous expliquez là, ce sont des processus que l'on connaît bien, qui sont des processus dont la finalité nous a craqué. On n'a plus de face à un manager. Si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, c'est simple. Vous le mettez dans un coin et vous ne donnez plus de boulot. Et bien, il va pas finir longtemps. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est une violence effectivement extrême. Parce que, bien évidemment, qu'est-ce qui justifie qu'on vienne au travail sans être dans un rapport d'utilité, sans être dans un rapport de que on exclut, on vend les autres. Qu'est-ce qui peut justifier cette violence extrême? Et on ne tient pas longtemps, c'est difficile de tenir. Difficile.
Et on peut lutter comment?
La question est différente. Parce que oui, mais bien sûr, on me souffle la question sur cette voie, quelle est la nature du soutien social, hein. Vous avez autour de vous. Est-ce qu'il y a un collectif? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent ce qui vous arrive? C'est pas normal. Alors, le fait qu'ils se disent en collectif, vous dites à vous, c'est important. Hein, quand même, hein, parce que ça veut dire que finalement, c'est parce que vous pouvez dire vous. C'est le problème, c'est qu'à un moment donné, on se dit en français, c'est nous le problème, réellement. Donc, au moins, la fonction des autres, c'est bien quand même. C'est pas quelque chose. Bon. Alors après, ils ont peut-être pas jusqu'à. Après, c'est finalement de dénoncer ça, évidemment. C'est-à-dire, quelles sont les possibilités qu'on a de dénoncer. Alors, évidemment, si on dénonce collectivement, on n'a pas vraiment de quoi si vous cherchez à le dénoncer individuellement. C'est-à-dire, ça rentre ce que vous décrivez là, oui, d'autres le problème en perspective de la question du harcèlement. Vous êtes victime d'un processus dont la finalité. C'est vous êtes sûr, c'est du harcèlement stratégique ou du harcèlement social. Donc la question, quand même, la plus
cas. Ce que les gens détendus sont de. C'est une. Alors, c'est une. Oui. Pardon, binaire. C'est une. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Ça veut dire que les gens ne sont pas neutralisés. On tolère et permet que les gens agissent comme ça. Hein? Parce que, je disais tout à l'heure que les autres, la fonction des autres, c'est de nous normaliser. C'est-à-dire d'essayer de nous rendre aptes à vivre avec autre chose. Ça veut dire que la normalisation, c'est pas ce que c'est. Hein? C'est déclaré toujours, c'est que être normal. Si ce n'est considérer que être normal, c'est être en capacité de vivre avec autre chose. D'une manière aussi. C'est-à-dire que, si je vais trop loin, vous allez dire à moi de faire des gens, mais là vous exagérez. Donc, moi je sais que soit je continue et vous m'excluez, pour bien sûr, difficile, soit parce que je suis désolé, c'est parce que je vous dis. Vous voyez, c'est ce qui a changé par rapport au harcèlement. C'est ça, c'est dans le temps. Quand quelqu'un se permettait d'avoir un comportement libre, oh, qui pouvait être l'expression d'une pulsion, là oui, on a des pulsions pour en être apparté, nous aussi, j'ai pas des pulsions, on a dit merde, j'ai pas oublié ça. Bon, après on va se suivre tout de suite, on a un peu le coup. Bon. Et ce qui se passait normalement, c'est qu'à la fin de la journée, elle avait moins quelqu'un, elle avait moins quelqu'un, elle avait dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Marcel? Parce que vous comprenez, nous, si ça commence à être à l'affaire, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Vous voyez, c'est-à-dire que, parce que les collègues qui se mettent tous en disant non, non, ça, on n'accepte pas en fait. Alors, deux, plus. Qu'est-ce qui fait que dans l'organisation du travail tolère que les gens agissent comme ça? Est-ce que c'est lié à leur origine de leur singularité ou est-ce que c'est parce que finalement on demande de faire ça, la condition de leur travail de faire ça. Et puis finalement, voilà, qu'est-ce qui fait que les autres, ils ont peur du poids. Et le harcèlement, il signe ça, quoi. Il signe finalement le fait qu'on ne s'oppose plus à rien. Parce que quand on a des comportements originaux, on peut donner des idées tordues. Ça, je pense que c'est assez bien partagé par le mec. On est des pulsions, comme dirait l'autre. Soit, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il n'y a personne qui veut nous parler. C'est pour ça qu'on a fait la question psychosociale. On a toujours considéré que c'est l'organisation du travail qui répondait. On se fait finalement les tolère que ce genre de choses puisse exister. Donc c'est vrai que soit c'est passé par un appui extérieur, c'est pour négocier effectivement quelque chose. Soit finalement, bien évidemment, c'est de trouver la forme qui puisse faire que puisse être financier, c'est difficile. En plus, si voilà, il n'y a pas de représentation d'activité syndicale forte qui permet que le CHFPT, on en a un peu parlé tout à l'heure, finalement, voilà, ça part. Voilà. Et seul, c'est difficile de se rendre. Alors, heureusement, la clé permet quand même de. Le risque, c'est le cadre, finalement. Des risques psychosociaux qui sont définis par les différents accords interprofessionnels permet effectivement de justement d'aborder ce genre de problème. Oui.
Oui. Je crois que c'est important, comme vous dites, bah, de définir les mots. Le mot travail, qu'est-ce que c'est?
Oui.
Parce que le travail est très différent, déjà selon au cours des âges, selon les sociétés. Jusqu'au XVIIIe siècle, travailler, c'était des gradants. Travailler, c'était des esclaves.
Oui.
C'était des serfs. Les nobles ne travaillaient pas. Les patriciens ne travaillaient pas. Et surtout, hein, le travail était dégradant. D'ailleurs, le mot travail vient du latin. Voilà. La torture, donc la torture. En plus, dans une société donnée, donc par exemple, au 19e siècle, où en France, il y avait encore 80% de gens qui travaillaient à temps plein. On ne parle pas du même travail que maintenant. Le travail était différent. On ne peut pas définir le travail. Bon. Et même.
Mais il est dur aussi.
Oui, très difficile. Mais il n'y avait pas de contraintes. Le paysan était même chez lui. Il n'y avait pas de chef qui venait tous les jours lui dire qu'est-ce que ceci, qu'est-ce cela, je vais le chronométrer, personne ne le chronométrait, Il vivait son travail, faisait partie de sa vie. Il se levait le matin, il travaillait plus l'été. D'ailleurs, les journées, pour lui, n'avaient pas 24 heures. L'hiver, elles étaient plus courtes que l'été. Au moment des boissons, c'est lui qui décidait ça, selon le temps. Bon. Donc, ça, bon. C'est même à l'heure actuelle. Le travail, est-ce que c'est la même chose entre un travail manuel et un travail intellectuel? Vous dites que le travail s'est transformé la matière. Pour la Black Lives, c'est transformé la matière. Non. C'est la matière. Pourquoi c'est pas la matière? Oui, c'est pas la matière. C'est transformé. Oui, c'est pas la matière. Quand les choses ne peuvent pas faire. Alors déjà, donc l'effort, ok. Alors en plus, pour le même travail, une personne par exemple qui travaille en usine, qui est métallurgue, qui travaille sous un travail contraint à l'usine, il est contraint, il est chronométré, mais. Et chez lui, dimanche, il peut très bien bricoler pour lui, faire le même travail d'une manière indépendante. Est-ce que c'est le même travail? Est-ce qu'on peut parler de la même chose?
C'est du travail, mais ça n'a pas le même sens.
Voilà, ça n'a pas le même sens.
C'est-à-dire, dans un cas, construit la maison pour mes enfants, pour mes salariés.
Le mot travail a beaucoup de sens selon la société, selon la position dans la société, et selon ce que, si on aimait ou pas. Le travail contraint et le travail choisi. Par exemple, la personne qui refait son travail dans une association, pour lui, c'est pas du travail. Il n'est pas rémunéré, il n'est pas quand même. Et les relations sont totalement différentes.
En apparence, c'est tout à l'heure de l'ensemble de ces questions qu'on a. Peut-être définir ce qu'on est dans le travail. Pour nous, le travail, c'est pas du temps qu'un travail rémunéré. C'est faire quelque chose qui nous fait faire l'expérience de la résistance des choses. Le travail ménager, c'est du travail. Parce que tenir un ménage, c'est du boulot. Voilà. C'est-à-dire, c'est des difficultés, c'est de régler les urgences, c'est répondre à des questions, vous ne savez pas si. Voilà. C'est-à-dire, c'est se confronter à une épreuve, c'est une épreuve, finalement, qui nous fait faire l'expérience de la résistance des choses, qui participe du développement de soi, qui développe des aptitudes. Donc, et qui n'est pas forcément rémunéré. Hein. C'est pas que le travail rémunéré, hein. Tu peux travailler dans une association, tu ne gagnes pas un rôle là-dessus, tous les dimanches tu pourras où, les gamins du bon, les parents, c'est choisi. Mais oui, parce que ça a du sens, parce que mon projet, c'est effectivement, dès que j'ai un point, ça a du sens. Des fois, ça m'utilise, parce que je vais finir par me dire, attends, je donne tous mes week-ends depuis des années, j'ai encore un parent qui va me dire, mais il y a là, mon gamin. Non, ça va, quoi. Vous voyez, c'est méchant de faire ça. Bon, et là, à ce moment-là, je m'en arrête parce que j'en ai marre de donner sans que j'ai compris en retour. C'est la question de la représentation. Bien sûr que, suivant la question faite, on a des contraintes évidemment qui sont différentes, et on a des espaces d'utilisation qui sont différents, car de réalisation souvent. Mais quand même, quel que soit le travail que je fais, si je mon travail, c'est balayer ce sol-là, moi, ce qui m'importe, alors évidemment, on en veut sans doute, la chemise en général, etc., comme vous le dites, ça va, plus tard, vous êtes un pensionnaire, tu vois. Alors, il y a du tout, c'est de ça. C'est noble, de problème, de ça. Mais ce qui est important, c'est que, moi, ce passé, c'est hybride. C'est des tâches que vous ne voyez même pas, moi, je sais, c'est ça. Et la crise sur le gâteau, c'est qu'il fait 10 ans. Et donc, il est magnifique ce passé. Alors bien sûr, ma condition est très nette. Bien sûr, mon salaire est destiné. Ce n'est pas franchement un travail que j'aurais choisi si j'avais d'autres opportunités dans ma vie. Sauf que je peux être fier de ce que je fais. Parce que je suis peut-être que votre meilleur, monsieur. Mais le travail que je fais, c'est du nouveau travail et je fais dignité. Vous voyez, et utilité, parce que j'ai à cœur que quand vous conseillez, vous trouvez cette salle propre. Alors quand on rentre, on s'en fout que cette salle soit propre. Personne ne se dit, ah ben ils ont bien rangé les chaises, ok, les chaises, je pense à dire merci tout à l'heure en sortant, il leur a l'air sympa, hein. Ça aussi, c'est une caractéristique finalement du travail. C'est-à-dire que finalement, vous savez que le travail se voit quand il est parfait. C'est ça le travail ménager. Dans le travail ménager, mais quand il est fait, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est affectant. Quel que soit finalement le travail que l'on fasse. Vous voyez, ça veut dire que c'est encore. Cette épreuve-là, parce qu'il n'y a pas de travail sans épreuve, il n'y a pas d'agriculteurs dans son coin qui vont faire ça, c'est évidemment marginal, évidemment. C'est rare qu'on ne soit pas déterminé par les contraintes, pour quand même le ventre, pour quand même soigner ses vaches. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on est dans des liens d'utilité avec les autres quand on travaille. C'est-à-dire qu'on est déterminé par. C'est pas vrai. On est déterminé par un environnement qui agit, avec lequel on interagit, sur lequel on influe nous-mêmes ou pas. mais encore une fois, la question c'est qu'est-ce que je puis dans le travail que je fais, qui est une ressource finalement. Vous voyez que moi, je vais dire de plus.
Je trouvais que vous avez fait un peu votre discours sur la positivité, la construction de soi, et donc on voit parfois que vous arrivez, c'est destructeur, où on se retrouve seul, évidemment, que vous l'avez vécu, et que c'est vers les autres qu'on arrive à trouver un équilibre et à trouver une force collective. Mais je regrette un peu que dans le titre de la conférence, il est marqué mutation. Parce que pour moi, j'avais vu ça plus comme une mutation positive, genre coopérative, d'autres alternatives au travail. Je vais vous donner l'exemple, comment on ferait si tout le monde dit on arrête de bosser, donc bah oui, pourquoi pas, il y a peut-être d'autres solutions à trouver.
Ah oui, mais en anglais,
parle pas les uns et les autres finalement et qu'il n'y a pas un muscle en fait.
Alors,
En même temps, on peut considérer que, bon, c'est vrai que le milieu, que voilà, c'est la dernière période de votre chose. Donc la relation, enfin, la relation déviée par un outil, hein, bon. Mais tant qu'en tout cas il existe une forme d'économie qui nécessite qu'on se retrouve et qu'on se mette ensemble à faire des choses, d'une certaine manière, effectivement, bon, les espaces de socialisation par l'action et par le travail, bon, finalement, je pense pas que c'est demain que ça disparaîtra. Après, je ne sais pas si c'est dommage, hein, parce que donc, c'est une forme de la socialisation, c'est une forme d'échange, quoi. C'est-à-dire, c'est une forme de l'entraide, c'est une forme de la coopération. Je ne sais pas. Je ne sais pas,
c'est quelque chose qui est. Des fois, je trouve ça bizarre, parce qu'on est obligé de passer par l'idée de 2 ou 5 ans pour pouvoir ensuite.
Quand dans l'entreprise, je suis avec des gens, il faut parler à mon collègue,
mais. Oui, c'est ça qui est hallucinant.
C'est hallucinant. Parce que si je mets des travails, je vais chez moi, je communique avec
mon collègue. Ouais, là, c'est l'idée. Voilà, okay. Ouais, d'accord. Et finalement, c'est ce qu'on vient à faire. On est à 2 mètres, on est à se communiquer. Envoie-moi un mail, s'il te plaît. Pour dire ce que tu as à me dire, parce qu'il ne veut pas prendre la responsabilité ou quoi que ce soit, ou autre. C'est le même, c'est bizarre.
Oui, je veux la proximité de l'autre, parce que finalement, j'ai pas envie d'accuser l'exception de ce qu'il aurait à me dire, qui pourrait me déranger ou avec lequel je pourrais pas faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait d'utiliser ces moyens-là d'échange alors qu'on est en proximité, qui ont à avoir à côté de se protéger. Ah, bien sûr, vraiment. Bien, c'est pas possible. En plus, c'est bien. Dans la mèche, on peut pas mettre de sensibilité, d'émotion, de la communication opérative, opérationnelle, qui déshumanise totalement la relation.
Et qui peut déboucher aussi sur ce qu'on a vu dans les.
Oui, mais pour quel problème ?
Il peut déboucher sur les
mensonges.
En plus. Je pense que quand il y a tant de choses en plus, il y a plus.
Thank you.
exemple, là, il y a une banalisation là, les gars. Le suivi juif, ça va à maman, quand on a fait deux, trois papiers sur Christophe Bonjour, évidemment, Christophe Bonjour, il en a marre. Et puis, si par hasard, le président de la République est surpris en pièce pas, en fait une jolie bande, ça a beaucoup plus d'impact sur la bande que le suicide de la carrière de l'ONF. D'accord ? Donc, le fait de banalisation en forme, donc la question c'était. À un moment donné, donc on n'en parle plus, parce que j'ai fait plein de fois de parler du suicide. Dans le fond, je suis arrivé ici. D'abord, il y a ma cabaret, danse, musique, et je suis venu là quand même. Donc, on se pose des questions.
C'est vrai que il peut y avoir des attitudes de médiatisation comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Ils sont des acteurs, notamment, qui aujourd'hui ont encore, c'est-à-dire les moyens, parce que les moyens, quand pour agir, ont tendance à se remuer, mais quand même, l'inspection du travail, il y a les charges. D'accord. On peut se poser les questions. Bon, il y a quand même un certain nombre, effectivement, d'acteurs qui sont partenaires sociaux, qui sont là. Voilà. Bon, finalement, pour faire en sorte que les choses existent. Et encore une fois, hein, vous voyez, on disait tout à l'heure, finalement, la question du rapport de corps, hein, quelque chose, bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il existe plus, le risque de la mobilisation, et c'est jusqu'à quel est le seuil de tolérance à l'ONF ou ailleurs en termes de suicide. C'est-à-dire, est-ce que finalement on va considérer que c'est une modalité qui fait partie du travail, c'est normal de se suicider quand on travaille. Donc au moment où il s'y retrouve à travail, on va dire, attendez, ils vont arrêter de se suicider. Hein. Puis, parce que quand on regarde les statistiques sur la dernière année, qu'est-ce que c'est tombé? Mais on comprend bien. Hein. Bon, enfin, oui. Non, quand même. Bon. Encore une fois, vous voyez, je pense que c'est pas nouveau, mais.
Non, mais le problème de l'ONF est directement lié à ce qu'on a appelé la révision générale des politiques publiques, la RGPP, puisque à partir du développement moral, au ministère de l'Agriculture, ils ont baissé de manière drastique les effectifs, et particulièrement dans cette orientation, cet axe-là, ils ont fait les pieds là.
J'ai oublié dans la description de ce plateau, l'image qu'on a du monde que nous actuellement, il y a eu plus de 50 suicides.
Oui, bien sûr.
Et à la fois du bon printemps, quand on commence à pousser, vous voyez les gens travaillent la nuit avec l'éclairage, et les oiseaux encore plus, parce qu'ils sont
Et encore une fois, si on allait chercher derrière hein, cette histoire d'intensification du travail, c'est-à-dire on était vite, on était plus calme, il y a effectivement ce qui relève probablement bien évidemment des charges de travail qu'on a réussi à tenir, et il y a probablement aussi quelque chose qui fait que je peux plus faire la même qualité du travail. C'est-à-dire que, vous voyez encore une fois, quoi, c'est-à-dire on dégrade massivement dans beaucoup de secteurs, finalement, ce que c'est que de faire un travail de qualité, c'est-à-dire de faire un travail dont je suis fier, j'ai une belle forêt. Or aujourd'hui, je n'ai plus une belle forêt. Alors, si faire mon travail, c'est que de la charge, et qu'il n'y a plus quelque chose finalement qui vient s'arriver, ou qui peut construire finalement l'estime de soi et la fierté, alors c'est intenable le travail. Voilà, tout simplement, c'est intenable. C'est bien difficile. Quoi.
Surtout que souvent, c'est des gens qui ne sont pas arrivés là par hasard. C'est une forte motivation dans l'engagement.
C'est bien sûr, là, forcément. Ceux qui sont affectés en premier par le travail, c'est les plus motivés. Celui qui s'en fout, bon, sauf que c'est difficile de faire le grand public aujourd'hui dans les organisations du travail. Un mec arrive à faire le grand public, c'est héroïque, hein. C'est un boulot, hein. C'est un vrai boulot, hein. Enfin, moi, je te dis bravo, hein. C'est chier, hein.
Oui. Voilà. Donc, juste une question globale et quelques réflexions sur le quand on parle d'une société comme une unité, comme quelque chose de très global, moi j'ai du mal à accepter. Pourquoi? Parce que il faut avoir une vision quand même un peu plus. Pardon. Je suis plus pertinent. Je vais essayer de parler plus fort, mais avec des dents en entier. Donc c'est pas bon. Mais je vais garder mes dents. Entre mes dents et vous, m'écoutez, je ne peux pas garder mes dents. Donc, une chose. Les gens m'attendent. La première, la plus importante que je vais aller. Nous ne sommes pas tous coupables, monsieur. Quand vous dites qu'on est tous coupables du travail, pardon, je n'ai pas d'action. Je fais partie de ces gens qui pensent que parfois agir par soi-même, même si on n'a appris quasiment rien,
Ça compte d'une action globale.
Oui,
je n'ai pas d'action et je ne fais pas partie des gens qui disent « Nous, nous sommes tous coupables ». Non. Cependant, je fais partie de ces gens qui disent « La société n'est pas une unité ». Il y a des gens quand même, ce n'est pas contre, il y a des gens quand même qui décident des politiques globales du travail. Très pratiquement, très rapidement, le 22 septembre. Les droits riches, les plus produits du monde, ont quand même des pactoles de 25% de plus en 2013. Moitié de la population du monde ne crève pas. Cela n'est pas du hasard. Cela, c'est des politiques pensées, agies, en fait, qui nous donnent un horizon. C'est lui de se contenter du travail avec lequel tout le monde fait de sa gueule.
Et oui, pourquoi vous fermez votre gueule?
Justement, je vais vous dire pourquoi je ne la ferme pas moi. Mais je ne peux pas dire que tout le monde la ferme.
Mais oui, mais vous pouvez vous gueuler tout seul tant que vous voulez. La question, c'est comment vous organisez les formes collectives pour gueuler qui fassent que ces 200-là rendent des comptes. Parce que si personne n'en rend des comptes, eh bien, ça continuera, cher ami.
Je le mets. Mais la question,
c'est. Pour le moment individuel, ce que vous posez, c'est légitime. C'est honnête, c'est bien d'aider la petite vieille qui traverse le trottoir pour lui de mettre la poubelle correctement et tout. Mais alors, disons, on est par le bout du chemin, hein.
Donc, d'abord, voyez comment c'est difficile. C'est difficile pour moi parce que vous présupposez de ma vie, mais je ne pense pas qu'on est à peu près.
Mais vous présupposez de mon point de vue aussi.
Non, je ne présuppose rien, je prends vos paroles que vous avez dit, je les ai notées. Vous voulez que je vous le répète? On est tous capables, on est tous coupables d'essayer de travailler en relation.
On en est tous en situation d'être complices.
Je ne présuppose rien, je ne présuppose rien. Je vous fais un commentaire. Et je finis juste ma phrase. Voyez comment je travaille sans relation. C'est la deuxième fois que je viens, c'est la deuxième fois que j'interviens, c'est la deuxième fois qu'on peut me fermer ma gueule. Je ne l'avais jamais.
Non, moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous proposez. Voyez, c'est-à-dire que, parce que si vous avez une solution, qui est une solution, n'est même un embryon de solution, un embryon d'idée, qui pourrait faire effectivement qu'on s'en saisit ça. Voyez, c'est... Alors, pourquoi pas? On est preneurs ici. C'est tout, les analyses du travail, tous les gens qui se penchent sur cette question-là aujourd'hui, il ne manque pas de méthode, il ne manque pas de moyens d'analyse. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est-à-dire que alors, si vous avez effectivement quelque chose qui est pertinent, vous le posez comme ça. Mais moi, je pense que si on faisait comme ça, ça irait mieux si on faisait comme ça. Moi, je suis le premier à dire pour vous.
La seule difficulté, c'est que je travaille dans une zone sociale, et comme je dis souvent, ça ne coûte rien d'être une comme elle est 30 secondes, comme la plupart des intervenants politiques et autres le font.
Comme vous.
Ça nous coûte 30 ans de travail pour monter toute une comme elle. Vous voyez, donc si on parle comme ça, c'est la seule chose que je peux dire pour parler de généralité. Je ne voulais pas parler de généralité. Je sais qu'il suffit quand même, dans un premier temps, de constater quels sont les déterminants sociaux. Comme disait la dame, comme disait l'autre dame. Si on ne les imagine pas, si on n'imagine pas de quelle manière on peut penser sur cette idée et quelles sont les informations à le faire, on est mal. Et je vous disais tout simplement, moi je ne propose rien. Je prends les travaux que j'ai faits comme Poulenc, je prends les travaux que j'ai faits comme des gens comme Marx, je prends les travaux que j'ai faits comme Foucault. On a des outils intellectuels pour pouvoir penser une autre société. Et j'ajoute, et oui. Je mettais, parce que je ne veux pas qu'on ne m'ait pas fait pour la dernière fois, vous voyez que les dialogues sont difficiles. Mais que vous êtes critique, vous dites, c'est vous, c'est qui même. Ou a priori, le principe, c'est le dialogue, c'est la discussion. C'est la discussion qui, par ailleurs, est libre, dans le sens où la chaîne nous le permet. La logique de la chaîne, c'est vraiment la raison de la liberté. Sauf que ce dialogue-là, ça passe par la contradiction. Et comment voulez-vous, moi je ne veux pas parler de moi, parce que c'est vraiment très malhonnête, je trouve que ce n'est pas. C'est très prétentieux, même à la rigueur. Mais. Dans la lutte sociale, même les petits travaux qui consistent à être une goutte d'eau comptent. Parce que sinon, comment voulez-vous trouver une solution globale à un problème complexe? Un problème complexe. Et j'ajoute que justement, quand vous dites que tous les Chinois aujourd'hui, ils sont par ailleurs en train de se révolter. Non, ils sont toujours révoltés, monsieur. Ils sont comme nous. La seule condition qui compte, c'est qu'il y a des conditions sociales qui vont permettre justement ce travail d'intervention.
Oui, d'accord. Voilà. Je suis d'accord sur vos formules. La question finalement, c'est que je pense qu'on a été relativement d'accord aussi pour dire que les rapports de force sociaux, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur le terrain du travail de l'organisation du travail, où il n'y a pas à faire avancer l'organisation du travail. Parce que le travail est un objet politique, bien sûr. Le travail a à voir avec l'organisation de la cité. Il y a à voir finalement avec ce que l'on veut comme société. pouvez être une femme travailleuse. Donc, c'est-à-dire, finalement, c'est une tension. Donc, et dans ces rapports de force-là, on disait tout à l'heure qu'il émerge de nouvelles formes de consommation, il émerge de nouvelles formes de rapports aux autres, il émerge de nouveaux réseaux sociaux qui organisent de nouveaux rapports de force. Voilà, donc on voit quelques exemples, tout ça. Ça va pas s'arrêter demain, a priori. Donc, et moi, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est une composante. C'est une composante. Et puis, il y a évidemment ce que chacun a oublié, il peut faire. Mais je pense en tout cas que ce que chacun peut faire oublier, c'est important. Mais on gagnerait quand même, d'une certaine manière, à être un peu plus organisé, plus collectif pour faire les choses. Je pense que, vous voyez, c'est-à-dire, si tous ensemble ici, on rédige une motion et on la signe, elle aura probablement finalement, voilà, un certain point, que ne pourra pas finalement ma déclaration personnelle, qui je suis, moi, finalement, pour avoir un vous voyez, c'est honorable, mais qui vous êtes. Vous voyez, dans la vie, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est bien sûr le rapport de force sociale qu'on peut créer, parce que si on est 200 à avoir le même vue, bon, il est probable qu'on va réussir à faire ensemble.
Donc,
c'est ça qui est important. Moi, je crois dans les formes qui sont dans les formes organisées collectivement. C'est vrai dans le travail, je pense que quand les gens sont en collectif, en solidarité, en entraide, en soutien, ben finalement, ces enjeux-là, qui sont des enjeux de déstabilisation, n'ont pas le même destin que vous les attendez. Que quand finalement les gens pensent qu'ils peuvent s'en tirer tout seuls, ils n'ont aucune chance. Aucune chance.
J'ai
envie de
tout ça.
C'était juste
une
remarque.
Plutôt que de créer ce mouvement qui va
entraîner tout le monde dans la conflictualité. Est-ce que nous, on est prêts à faire le pas, aller vers ça? Parce que justement, on a nos petites vies à protéger, nos petits travailleurs à protéger.
Oui, mais c'est aussi comme ça que finalement les choses perdurent. C'est-à-dire que derrière ce qu'on dit, il y a aussi tout ce qui participe de nous faire peur.
Je vais vous citer un exemple, ce qui s'est passé le 25 janvier à la gare de Lazare à Paris. Là, un conducteur, dans le cadre de son travail, s'est fait agresser alors qu'il demandait à un client, à un usager du chemin de fer, de respecter la loi, c'est-à-dire de ne pas filmer le 25. Ce conducteur s'est fait agresser, donc c'est des foudres. Les conducteurs se sont tous mis en grève, arrêtent de travailler pendant 24 heures. La SNCF a ouvert un blog de manière à ce que les usagers puissent s'exprimer. C'était un déchaînement de violence contre les grévistes. C'est horrible, quoi. C'était un déchaînement de financièreté, de... On n'acceptait pas que les gens se battent au travail, quoi. De protéger leur vie, parce que là, c'était le droit de retrait qui a été mis en place. Le conducteur a exercé son droit de retrait sur le fait d'une situation dangereuse à son travail. Les autres conducteurs ont ce droit de retrait, hein.
Mais je pense que la violence des usagers, elle est d'autant plus forte que les usagers, eux, ils n'ont pas les moyens, justement, finalement, de défendre leurs intérêts. Vous voyez, c'est ça qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire que quand il y a encore quelques catégories sociales qui ont la possibilité, finalement, de dénoncer quelque chose, que c'est pas normal de faire casser la gueule au travail, bon, combien il y a d'autres catégories sociales, finalement, qui ne peuvent pas. Alors pendant longtemps, c'est par procuration qu'on faisait la grève avec ceux finalement qui avaient des capacités de mobilisation. Mais je pense que la violence dans ces blogs-là, pour moi, elle n'est pas contre les gens de la RATP. Elle dit de la violence dans laquelle les gens sont par rapport à l'impossibilité dans laquelle ils sont, eux, de pouvoir se battre. Et ça montre, c'est-à-dire ça montre à quel point finalement, il y a quelque chose qui les a aliénés, quoi. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire, c'est pas raisonné cette posture-là, parce que rien ne justifie que quelqu'un qui travaille, conducteur ou pas conducteur, se fasse casser la gueule dans le boulot. C'est-à-dire, on a posé la question en bas, on dirait, est-ce que vous trouvez ça normal que tout le monde vous dira non. Vous voyez, bon, hein, c'est-à-dire bon, c'est.
Pour que l'organisation du travail, plus ou moins n'importe quoi,
Il faut faire en sorte que les deux personnes, d'une certaine manière, qui soient les témoins ou le responsable de quelque chose. Sinon, ça se disait trop. Tant, manager, c'est toi et moi, hein, c'est un être humain. Hein. Il y a quand même plus de choses qui vont avoir chez l'être humain que de choses qui nous séparent. C'est justement ça qui est intéressant. Il y en a qui s'en foutent, qui vont revenir de faire des stratégies défensives. Aujourd'hui, il y a de plus en plus sur des cas de haut niveau pour faire des gens. Alors là, ça c'est du groupe, hein, parce que pendant longtemps, c'est plutôt effectivement bon. Aujourd'hui, quand même.
Non, moi,
alors, vous avez un peu prétentieux parce que je vais parler un peu de moi, mais je suis consultant en même temps. En fait, j'interviens aux clients pour des missions d'évolution de soit leur processus, soit leur outil. Et je me rends compte qu'en fait, ma mission principale, c'est de réunir les gens pour les faire parler de leur travail. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là, c'est que les entreprises ont besoin de faire un recours à des prestataires externes pour faire parler les gens de leur travail. Et les gens en sortie d'atelier vous disent mais en fait, on n'a jamais l'occasion d'en parler.
Bon, après, donc, du coup, on est sur la même clinique, hein, la mise en parole du travail. Je ne donnerai pas forcément, évidemment, je ne vais pas avoir une nuance de ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait de mon sort. Je pense que la mise en voie est difficile spontanément parce qu'elle doit être tellement passionnelle et émotionnelle qu'elle fait peur. Les liens avec la communication dans l'entreprise, souvent l'institué, c'est pour la première fois qu'elle va penser. J'ai horreur de la première fois qu'elle a fait 4 points. Ça plaît dans le cas de machin. Mais attends, alors que si j'ai problème dans le travail, forcément, c'est affectant et émotionnel. Et quand cette communication est brute, ça fait peur aux gens, tout de suite on dit voilà, ça. Donc, vous, comme nous, on crée les conditions pour parler d'une manière apaisée de choses qui fâchent. Et on montre que c'est possible. On dit, voyez, on a passé 3 heures, hein. On a ça, on fait un rapport, on a ça. Attendez, c'est pas la même chose, on a bien compris que c'est une logique comme ça. Alors, comment on fait pour arriver à trouver quelque chose avec ça? C'est-à-dire, il y a ce sens qu'on a produit du changement. Il y a le premier niveau de changement à ce moment-là. Je pense parce que justement, c'est pas spontané, justement. C'est une compétence de travailler à la mise en œuvre, à aider les autres à entendre.
On se dit ce qu'il y a de la chose.
Alors, bonsoir. Je voulais vous dire que ce que j'avais entendu ce soir, c'est extrêmement intéressant. Je suis psychothérapeute. Et il y a une question qui me gêne un petit peu, j'ai pas bien compris en fait. C'est sur le harcèlement dans l'entreprise. Vous parliez que c'est l'entreprise qui, quelquefois, crée le harcèlement, si j'ai bien compris. Donc, ce que je voulais savoir, en fait, c'est quel harcèlement il va. Est-ce que c'est le mobile, ou est-ce que c'est le harcèlement sexuel, ou d'autres formes de harcèlement?
Moi, j'ai beaucoup de formes de harcèlement sans problématique, et elles posent la question pas tant de la personne qui harcèle que de la tolérance qu'on a à ses agissements. C'est en ce sens que je dis que l'organisation du travail est responsable, ou je dis que l'organisation sociale des rapports sociaux ne s'oppose pas. Que j'ai une discussion, finalement, c'est une banalité du monde ordinaire. Sauf que si je donne des livres pour une discussion indispensable, au secours! Je ne sais pas, pas, déjà moi je pourrais faire une manière finalement qu'il fasse que ce soit compatible avec d'autres. J'espère bien plus ou moins sur cette question. La question c'est si je socialise une discussion, ça veut dire que d'une certaine manière je rentre dans un dialogue avec l'autre. Si l'autre dit non, c'est bon. Le pervers, c'est lui qui ne socialise pas une discussion. Il est là. La question qui se pose, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'oppose pas? Alors, les nouvelles formes d'organisation du travail, par exemple, en concurrence, par individualisation, à l'outan, font que d'une certaine manière, justement, ces formes-là de harcèlement, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient morales, elles sont évidemment problématiques, parce que justement, en s'y opposant pas, c'est légitime. Et c'est ça qui a changé. Je pense qu'avant, on n'acceptait pas ça. Quelqu'un qui avait un comportement un peu, on va dire, limite, il était rappelé alors par les collègues, on lui a dit non, attends, là, ici, ça ne se fait pas. Ok, normalement, on ne lui est pas. Parce que si tu continues à le refaire, tu auras des comptes à rendre.
Et aujourd'hui, justement, finalement, il n'y a plus ça. C'est en ce sens, finalement, que c'est important de responsabiliser les organisations du travail, qu'elles réfléchissent effectivement sur c'est quoi le système de prévention qu'elle met en place pour s'assurer effectivement qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas se faire, parce qu'on n'a pas besoin de la performance d'être assuré, évidemment, on n'a pas besoin de le faire. Vous voyez, c'est, ou alors, ça veut dire que d'une certaine manière, elle laisse faire. Et elle laisse faire parce que c'est vrai que pendant un certain temps, les gens qui sont soumis à des pressions de ce type-là sont très performants. Et ça ne va pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que nous, en tout cas, d'un point de vue de l'approche clinique, c'est de considérer que pervers est une victime. Alors, évidemment, si elle ne relève pas, effectivement, de la perversion telle qu'on pourrait l'imaginer cliniquement, ça, c'est quand même moi, je ne sais pas ça. Il est clair que si on a un pervers sans clinique, il est clair, on est plus. Il est plus par nous.
Ce qui est gênant dans votre développement, c'est de dire que, l'entreprise crée le pervers. Donc,
finalement, dans l'expression d'une pulsion qui peut être discutable, bon, mais qui est, si elle existe, c'est parce que d'une certaine manière, on la tolère dynamiquement. Hein, c'est-à-dire, finalement, c'est une cible. Des gens qui font ça de l'eau. Ou alors, c'est parce que, effectivement, les nouvelles formes d'organisation de travail, qui individualisent, qui cassent les collectifs de travail, qui précarisent, d'une certaine manière, les gens. Font que nous sommes extrêmement fragiles pour dénoncer une rébellion. La question est encore là, c'est de la subjective d'une agression, c'est banal d'une certaine manière pour la question. Qu'est-ce qui fait que je ne dénonce pas une rébellion ? Qu'est-ce qui fait que je suis pas déroché à harceler une rébellion ? Où on avance ? Vous voyez, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui renvoie justement au fait que c'est parce que les gens sont de moins en moins visibles. Vous voyez plus j'agis dans les formes d'activité où les uns sont sous la visibilité de l'autre, plus d'une certaine manière je me communique, plus j'y donne des gens, plus je vais favoriser, voilà. Alors sans formule, hein, ça va favoriser. Et moi, en fait, c'est comme ça qu'on explique cette espèce d'épidémie de harcèlement, qui ne renvoie pas, bien évidemment, au fait qu'on y a affaire à des pervers au sens physique. Cela est vraiment un peu inactif. Je veux dire, ou alors, vous voyez que les DRH, sinon, avec des psychologues, arrêtent à les sélectionner. C'est les bons pays de l'embaucher. Non, moi, je ne dirais pas de ça. Oui, mais je pense que potentiellement, on peut pas se faire. Je pense que, très honnêtement, j'ai vu la manière dont les sociétés psychiques sont extrêmement fragiles. Mis dans des conditions particulières, avec des responsabilités particulières, avec le sentiment qu'on veut légitimer, je pense que, à cette frontière-là, ici, il y a, contrairement à ce qu'on voit, beaucoup de gens qui peuvent la passer. Parce qu'encore une fois plus, c'est la légitimité de notre vie qui nous engage à faire les choses. Si j'ai un sentiment que je suis légitimé, et c'est comme ça qu'on comprend des gens, d'un jour l'autre, deviennent des salopards quand ils font la guerre ou quoi que ce soit. C'était pas des salopards au départ. Non, ils n'avaient pas un germe qui était différent de l'autre. Par contre, le collectif, de salopards. La mission, j'ai une idée, c'est que, pour enlever les corps, sauf qu'après, maintenant, ça va être.
On va peut-être s'arrêter, on va rester quand même.